suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Le capitalisme a-t-il un avenir ? C'est la question que se pose et à laquelle répondent, au moins en grande partie, 5 sociologues de réputation mondiale qui enseignent à New York ou à Londres. 2 d'entre eux sont aujourd'hui les invités de la suite dans les idées, Emmanuel Wallerstein et Randall Collins. Emmanuel Wallerstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous avez longtemps enseigné à Binghamton, à New York, où vous dirigiez un centre Fernand Braudel. Ce nom dit déjà beaucoup de la nature du travail que vous avez produit sur le monde, des formes de sociologie, de compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes mondes. Et cet intérêt pour ces systèmes mondes, vous le partagez avec les 4 collègues avec lesquels vous avez imaginé et réalisé le livre dont nous allons parler aujourd'hui, « Le capitalisme a-t-il un avenir ?» L'un d'entre eux, Randall Collins, bonjour.
Bonjour.
Est à vos côtés aujourd'hui, à la suite dans les idées, pour parler de ce livre. Randall Collins est professeur de sociologie en Pennsylvanie. Il est lui aussi un sociologue extrêmement réputé et connu pour son travail sur ce domaine et sur la question du conflit. Et à vos côtés, donc, Michael Mann, qui enseigne à UCLA, Georgie Derlugiang, qui lui enseigne à New York, et Craig Calhoun, qui est américain, mais aujourd'hui dirige la London School of Economics. Tous les 5, donc, qui partageaient ces objets communs depuis longtemps, vous avez décidé, vous allez m'expliquer d'où est née cette idée, Emmanuel Wallerstein, vous avez décidé de produire, ce qui est assez rare dans cette forme, un livre qui tente de répondre à cette question de l'avenir du capitalisme.
C'est un livre de débat interne, c'est-à-dire les 5 auteurs partagent quelques positions de base communes qui leur permettent de discuter, mais ils en tirent des conclusions assez différentes. Alors, bon, tous les 4 auteurs insistent à faire l'analyse dans la longue durée. Ça, c'est très important. Et mondialement. Hein. Et aussi, tout le monde pense qu'on est devant un grand tournant du système monde actuel, que moi j'appellerais l'économie monde capitaliste. Mes collègues l'appelleront peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, le grand tournant est réel, mais exactement ce qui pousse le grand tournant et qui l'explique et ce qu'on peut faire en réponse à ce grand tournant, ça, c'est un débat entre nous. Et on a voulu, par ce volume, par ce livre, impulser un grand débat mondialement. On pense qu'on discute trop peu la réalité et la possibilité même d'une fin du capitalisme. On refuse de le discuter essentiellement actuellement. Et on voudrait dire il faut en faire face.
Alors, c'est un livre qui est original dans sa démarche, dans sa forme. Chacun des 5 contributeurs a écrit un chapitre pour développer un aspect de la question et donne en même temps sa vision un peu globale sur cette question. Et puis, vous avez rédigé ensemble l'introduction et une assez longue conclusion dans ce livre. Une conclusion écrite sous forme de restitution d'un débat que vous avez eu les uns les autres, qui à la fois pointe les convergence, mais aussi montre bien les points de désaccord que vous pouvez avoir quant à l'avenir du capitalisme. Alors peut-être, Randall Collins, pour commencer, peut-on partir de ce que vous partagez les uns et les autres à propos du diagnostic que l'on peut poser de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui a commencé, dites-vous dans la conclusion, à la faveur des années 70, au moment où la crise économique des années 70 démarre. C'est dans cette configuration que nous nous trouvons encore aujourd'hui, même si elle s'est rapidement dégradée ces dernières années.
Emmanuel Wallerstein and I agree on the
Emmanuel Wallerstein et moi, nous sommes d'accord pour dire que le capitalisme en est un grand tournant. En fait, c'est une crise terminale que connaît le capitalisme et cette crise, nous pouvons même la dater. À notre avis, tout va se passer dans les années 2040, plus ou moins 10 ans.
Emmanuel has pioneered this area particularly.
Emmanuel s'est penché sur cette période car son étude des grands cycles hégémoniques mondiaux s'inscrit dans le long terme. Giorgi Arrighi, malheureusement disparu, a également fait une analyse des grands tournants des différents cycles. Moi, mon analyse est quelque peu plus étroite. De manière plus particulière, je parle du déplacement, du transfert du travail des moyennes classes, ce qui a en quelque sorte sauvé le capitalisme au cours des 100 dernières années. Ce transfert est dû à l'informatisation. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Et cela ne date qu'il y a 20 ans. Mais les choses semblent aller plus vite que les mutations qui ont frappé le travail ouvrier, le travail manufacturier. Je suis d'accord avec Wallerstein et Arrighi qui disent que l'effondrement devrait intervenir dans les années 2040 environ.
Pour vous, Emmanuel Wallerstein.
Bon, pour permettre à ce qu'on entende que la position des autres, il y en a deux qui répondraient à la question le capitalisme a-t-il un avenir avec un oui. Probablement, mais pourtant, etc., gros problème, etc. Et le cinquième, qui est écrit sur l'effondrement de l'Union soviétique, veut montrer qu'il y avait quelque chose là d'imprévisible pour la majorité des gens dans le monde. C'est une grande leçon. Pour ceux qui étudient le capitalisme, il y aura de grandes surprises, pas prévues justement par les analystes, mais aussi par les hommes politiques, etc. Donc maintenant, par exemple, notre ami Mick Mann, il dit que le capitalisme peut avoir un avenir, mais le système monde peut-être pas, parce qu'il craint l'effondrement à travers le changement climatique, etc., qui viendra trop en avant d'une putative effondrement du capitalisme. Bon, ça c'est une conclusion. Je dirais que deux de nos auteurs envisage la possibilité d'une sorte de social-démocratie mondiale comme solution, entre guillemets, de nos difficultés.
Ça, c'est la position de Craig Calhoun, par exemple.
Oui, oui. Alors, Craig Calhoun, mais aussi essentiellement de Mick Mann. Donc, là, sont les désaccords. Et alors, dans la conclusion, on veut montrer aussi que c'est pas la première fois que dans l'histoire du monde que les analystes sont sûrs de leur position, absolument sûrs sur la méthodologie, etc., et se sont trompés complètement. Alors donc, c'est comme ça qu'on anime le débat.
Certes, mais Emmanuel Wallerstein, Randall Collins, l'un et l'autre, tous les deux, dès les années 70, vous aviez prévu vous aviez écrit que le bloc soviétique allait s'effondrer.
Oui.
Sans doute on devait vous prendre pour des iluberlus. Certains, en tous les cas, de vos collègues, devaient trouver que vous étiez bien hardi dans vos prévisions. Et l'histoire vous a... Vous ne saviez pas comment ni quand, mais vous aviez anticipé.
On s'assoit sur nos belles prévisions.
Yes. Well, my prediction of the downfall of the Soviet Union came from
ma prévision de l'effondrement du bloc soviétique résulte d'une théorie différente. J'ai en effet analysé les motifs géopolitiques de l'avènement et du déclin des États. Pendant la campagne électorale de 1980 aux États-Unis, Ronald Reagan faisait valoir le fait que les États-Unis risquaient d'être détruits par l'Union soviétique dans le cadre d'une guerre nucléaire. Moi, j'ai décidé d'appliquer mon analyse aux positions géopolitiques des États-Unis et de l'Union soviétique, respectivement. Il y a cinq grands facteurs que j'évoque dans ma théorie. Quatre d'entre eux nous montrent que les États-Unis vont continuer à être une grande puissance. S'agissant de l'Union soviétique, quatre facteurs étaient d'ordre négatif et montraient la voie du déclin géopolitique de l'Union soviétique. Le cinquième facteur, à l'aune duquel j'ai analysé les deux pays, c'était la guerre nucléaire, susceptible de détruire tout. Et je disais que s'il n'y avait pas de guerre nucléaire, eh bien l'Union soviétique... Plus précisément, je reprends l'Empire russe, dont l'expansion avait duré cinq siècles et qui avait été hérité par l'Union soviétique, finirait par s'effondrer. Donc j'ai fait cette prédiction et j'ai dit en 1980 qu'au cours des 30 années à venir, il y aurait l'effondrement du bloc soviétique. J'étais assez surpris de voir que ça est survenu si rapidement, mais j'étais quand même... pas mal juste dans mes prédictions du point de vue temporel au moins.
Emmanuel Wallerstein, il y a une chose que vous partagez aussi tous ensemble, c'est l'idée qu'il est très peu probable, voire probablement impossible, que l'on sorte de cette crise par une forme de retour à une situation antérieure.
Non, mais j'essaie de montrer dans mon chapitre les raisons pour lesquelles il serait impossible qu'on fasse un retour. C'est-à-dire, j'essaie de montrer que la possibilité d'accumulation du capital, qui est la raison d'être du capitalisme, l'accumulation incessante du capital, n'existe plus. Et puisqu'il n'existe plus, ce seront même les capitalistes qui ne veulent pas qu'il persiste comme système. Ce n'est pas seulement les gens exploités, etc., qui sont normalement contre le système, mais c'est aussi les capitalistes eux-mêmes qui ne trouvent plus la possibilité de faire une belle accumulation de capital. Donc, on est arrivé à ça depuis un certain temps. Pour moi, le déclin, la crise structurelle du système monde moderne a commencé dans les années 70. Hein? Et normalement, ça prend assez longtemps. J'ai prévu qu'il va aller jusqu'à 2030, 2050, quelque chose comme ça, donc les années que prenait mon collègue. Et que pendant tout ce temps-là, tous les éléments du système renforcent l'inévitabilité de cette sortie. Mais la sortie, ça se prend à travers une bifurcation. Donc, il y aura deux possibilités de remplacement. Hein? Et, un remplacement qui maintiendrait les gens actuellement au pouvoir dans le monde, au pouvoir, mais dans un système qui n'est pas capitaliste. Il y aura d'autres systèmes qui permettent le même genre d'exploitation, des hiérarchies, de polarisation. Alors, pour moi, ça serait pas mauvais, mais c'est bien possible. Et l'autre, c'est la possibilité, pour la première fois dans l'histoire du monde, d'avoir un système largement ou relativement démocratique et relativement égalitaire. Hein? Bon, ce qui, moi, serait ma préférence personnelle, mais je ne dis pas que ça va sortir comme ça. C'est impossible de prévoir la conclusion, mais c'est possible de l'influencer. Et donc, je discute dans le livre les alternatives politiques qui existent de deux côtés. Alors c'est une situation assez compliquée, avec beaucoup de confusion qui gêne les gens. Les gens n'aiment pas la grande confusion, mais il existe, qui les gèle un peu dans leur position et ils hésitent à faire quoi que ce soit parce que ça peut être pire encore s'ils le font, etc., etc.
Cette question de la marge des manœuvres que nous avons pour influencer la destinée commune du monde, nous allons y revenir. Mais avant ça, j'aimerais que Randall Collins nous explique l'idée qu'il développe dans son chapitre et qui se focalise principalement sur la manière dont les classes moyennes vont être frappés, commencent déjà de l'être depuis un moment, par leur remplacement ou par le remplacement du travail des hommes par les machines. C'est selon vous cet aspect-là, fondamental, qui va contribuer de manière majeure au crash du système?
I come into this analysis really much later than Emmanuel, who's been
mon analyse s'inscrit plus tard dans le temps que celle d'Emmanuel. Lui, il analyse les cycles du capitalisme depuis les années 70. Depuis un certain temps, je pense que les prévisions liées à la théorie marxiste sont imprécises. Dans les années 90, avec la croissance frénétique de l'informatique, de l'Internet et ce déploiement incroyablement rapide de sociétés comme Apple, Amazon ou Google. J'ai dû me reconvertir parce que ces mécanismes fondamentaux dont parlait Marx étaient encore à l'œuvre. Marx n'avait pas prévu l'avènement des classes moyennes, mais la classe moyenne travaille dans le domaine de la communication et les mécanismes qui sous-tendent cette forme de travail, eh bien, c'est lié à l'informatique. Et là, on assiste à un déploiement à un rythme incroyable, à telle enseigne qu'au cours du dernier mois, du reste, on a vu Apple, la plus grande société informatique, qui essaye de reprendre l'activité des cartes de crédit. Apple s'est lancé dans la téléphonie, la photo. Amazon essaye de se lancer dans l'édition et essaye de tout reprendre dans le domaine de l'édition. Donc vous voyez, c'est un capitalisme monopolistique auquel on assiste. En parallèle, les cols blancs sont entre le marteau et l'enclume. Si les choses continuent de la sorte, je pense que notre prédiction qui s'inscrit dans les années 2040 est un petit peu trop lointaine.
Je voudrais ajouter,
Emmanuel Wallerstein,
je voudrais montrer où se rejoignent mon analyse et l'analyse de mon collègue. Pour moi, l'accumulation du capital exige la production avec le sur-valeur. Et le finance, les institutions financières transfèrent l'argent, ils ne créent pas de nouveau accumulation du capital. Alors, pour avoir la production, il faut avoir des clients, il faut avoir quelqu'un qui achète. Et l'élimination des gens qui achètent est ce dont mon collègue parle. La raison pour laquelle il n'y aura plus de clients. Et essentiellement, le nombre de clients mondialement se réduit. Alors, ce qui fait que on ne fait pas de nouvelles industries, de, non seulement les anciens, mais les nouveaux de pointe, parce que pour eux, il n'y a pas un groupe qui pourrait acheter leurs produits. Et donc, ça ne vaut plus la peine. Hein. C'est ce que se disent les capitalistes les plus avertis. Alors, bah, parce qu'eux, ils n'acceptent pas tout le monde mon analyse. Mais il y en a qui l'acceptent, qui savent exactement ce qui se passe et qui sont en train d'impulser un autre mouvement vers un nouveau système, un nouveau système qui fait la même chose, mais d'une autre manière.
La question qui se pose, pour caractériser votre entreprise, on est très loin des travaux habituels de prospective. Ce n'est pas du tout la perspective prospectiviste. Vous ne vous amusez pas à écrire des scénarios comme parfois les conseillers du prince le font. Oui. C'est bien un travail beaucoup plus rigoureux de sciences sociales que vous faites.
Absolument.
Et qui fait la part des choses entre vos désirs en tant que citoyen de ce monde, vos envies politiques et puis les choses qui peuvent arriver compte tenu de ce que vous faites passer à la situation contemporaine. Et que vous qualifiez de crash test comme on en fait dans l'industrie automobile ou désormais pour les grandes banques. C'est un crash test que vous faites passer à la situation mondiale.
On insiste que ce qui est le plus immédiat, le plus important pour tout le monde, c'est une analyse de ce qui se passe. Une analyse fondée sur les éléments empiriques et une théorisation utile. Hein? Une fois qu'on commence à comprendre ce qui se passe réellement, il faut faire nos choix moraux de ce qu'on veut réaliser. Et une fois qu'on a fait ce choix moral, à ce moment-là, il faut faire une analyse des moyens politiques pour arriver à ce fin. Tout ça sans être sûr qu'on va gagner. Hein. Je souligne absolument cet élément qu'on ne peut pas savoir qui va gagner le jeu, mais on peut l'influencer. Tout le monde peut l'influencer. D'ordinaire, quand on me demande quelles sont les perspectives, je dis, vous savez cette théorie de petits papillons qui, quand il flappe ses ailes, change le climat à l'autre bout du monde. Alors, je dis, maintenant, on est dans une situation où nous sommes tous des petits papillons. Et alors, quand nous flappe nos ailes quotidiennement, dans chaque nanoseconde, à chaque nano-élément d'action, etc. Et peut-être on va gagner. Ça, on me dit, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste de votre point de vue? Et je dirais toujours 50%, 50%. Mais j'ajoute, c'est pas mal 50%, c'est déjà beaucoup.
C'est-à-dire, Randall Collins, qu'il y a des facteurs déterminants, des déterminismes, mais il n'y a pas un fatalisme de ce qui va advenir de cette situation.
The butterfly metaphor also is situated in larger processes.
Oui, la métaphore du papillon s'inscrit dans le cadre de processus plus larges aussi. Papillon qui bat des ailes dans un ouragan ne change pas grand-chose. Donc, il y a parfois des situations où l'effet papillon peut avoir certaines conséquences. L'ouragan dont je parle, c'est justement ce processus causal particulièrement puissant qui amène à la grande crise du capitalisme avec ce qu'elle comporte en matière de chômage, crise de la demande des consommateurs, des monopoles d'entreprises particulièrement prégnants. Nous sommes d'accord pour dire que la financiarisation ne constitue pas une solution pour sortir de la crise. C'est un problème qui se surajoute aux autres. Donc, vous voyez que la financiarisation ne fait qu'ajouter de la turbulence au système capitaliste. On ne peut pas prédire la survenue d'une crise financière, mais ce que l'on sait, c'est que cette crise financière aura bel et bien lieu. Pour revenir au sujet que vous évoquiez précédemment, nous essayons de fonder notre analyse sur la meilleure compréhension que l'on puisse avoir des mécanismes de cause. Je pense que nous comprenons bien les mécanismes causaux de la croissance et de la crise du capitalisme. La science sociale pêche notamment sur la question de l'action politique nécessaire lorsqu'il y a une crise. C'est du reste pour cette raison, bien que j'ai choisi un mécanisme du marxisme classique, donc c'est donc la raison pour laquelle après révolution, socialisme ou autre, on arrive à une situation où les choses sont plus difficiles à déterminer.
Emmanuel Wallerstein.
Oui, je voudrais ajouter une petite chose. Il y a une dizaine d'années, je parlais à un homme de fer important français. Et je lui ai demandé comment est-ce que vous décidez, oui ou non, d'investir quelque chose. Il dit... Je me demande si je pourrais recevoir les résultats de mes investissements dans 3 ans. Je ne peux pas prévoir plus longtemps que 3 ans. Il faut qu'il... Alors, moi, je dis maintenant, il est impossible pour... Dans l'incertitude des fluctuations énormes, il est impossible d'être sûr qu'on va avoir la rentabilité dans 3 ans. Et pour ça, ils n'investissent pas. Justement parce que c'est tellement incertain. Et c'est là le problème.
Est-ce que ce livre et vos propos ont rencontré un peu d'attention de la part de ces gens en situation de décider, soit économiquement, soit politiquement?
Oui, ouais, bon, je suis sûr qu'il y aura certains gens très intelligents qui sont d'une autre... position politique que le mien, qui vont le lire et en tirer les conséquences qu'ils veulent en tirer. Hein. Moi, je ne peux pas contrôler la lecture. Hein. J'espère aussi que mes amis politiques le lisent et en tirent des conclusions utiles.
Merci beaucoup, Emmanuel Wallerstein, Randall Collins. J'espère aussi que les auditeurs de la suite dans les idées le liront, ce livre. Le capitalisme a-t-il un avenir? Un livre co-signé par vous deux et aussi par Michael Mann, Georgie Dehalogian et Craig Calhoun et qui paraît aux éditions La Découverte. Un livre qui paraîtra dans quelques jours, le 20 novembre, aux éditions La Découverte. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Geneviève Méric, à la technique, Léa Le Foll, à la réalisation, Ghislaine David. On retrouve Jean Deloisy sur l'antenne de France Culture dans quelques instants.